Bonjour à toutes et à tous, c'est Titania. Bienvenue sur Globule Radio 90.5 FM. Les élèves qui présenteront l'émission aujourd'hui sont des élèves du collège Jeanne d'Arc. Ils ont 13 et 14 ans et ils sont 3 ou 4 par groupe. Dans le nôtre, il y aura Snéal et moi, Titania. Nous vous présenterons le projet qu'on a fait au cours de l'année en français. On vient vous présenter notre émission qui parle de la biodiversité. Vous allez entendre une interview de Snéal sur les champignons. Ensuite, Aurine vous parlera des anguilles rouges. Et enfin, je vous présenterai une interview sur les myrtilles. Et si vous ratez cette émission, vous pourrez retrouver la rediffusion sur globule.chamonix.radio ou globule-radio.fr. Maintenant, vous allez écouter la chronique de Aurine. Bonjour Aurine.
Bonjour, je vous présente mon chronique sur les cochons. Savez-vous que les cochons sont plus intelligents que les chiens ?
Vraiment ?
Oui. Tu penses peut-être, par exemple, que les cochons sont sales parce qu'ils se couvrent de boue ?
Exactement, ils sont dégoûtants.
Eh bien, pas du tout, ils sont très propres. On sait, par exemple, que dès l'âge de 5 jours, ils font leurs besoins loin de là où ils se couchent et vérifient la propreté de l'endroit. En plus, ils se couvrent de boue, c'est pour protéger leur peau fragile des rayons du soleil et des insectes, comme s'ils mettaient de la crème solaire.
Je ne savais pas tout cela, mais tu nous avais parlé de leur intelligence. Tu peux nous en dire plus ?
Bien sûr. Je vous ai dit que les cochons sont plus intelligents que les chiens, car ils reconnaissent leur nom et ont réussi des tests créés pour les chimpanzés. Par exemple, en déplaçant un point sur un écran avec une manette pour toucher un mur, ils gagnent un friandise chaque fois qu'ils réussissent. Les cochons, ces gourmands, ont passé ces tests haut la main.
Ils sont peut-être futés, mais ils ne savent pas parler.
Tu as raison, ils ne savent pas parler, mais ils peuvent ressentir des émotions complexes, comme l'amour envers d'autres cochons ou leur maître, la joie, la tristesse et même l'empathie. On sait, grâce à la mesure des ondes de leur vocalisation, les émotions positives ont des ondes plus faibles et brèves que les émotions négatives. Ils entendent des fréquences comprises entre 42 et 40 500 Hz. Au-delà de 20 000 Hz, les fréquences ne sont plus audibles par l'homme.
C'est surprenant qu'ils soient si intelligents.
Tout à fait. D'ailleurs, je le trouve surprenant aussi qu'on les mange. C'est vrai, je ne sais pas pourquoi que dans les fermes, on les massacre l'un devant l'autre. Imagine si tes amis étaient tués juste devant toi. On devrait les traiter avec plus de respect.
Je suis complètement d'accord. On devrait les tuer en cachette, vite fait.
Moi, tout à fait. J'ai décidé de faire cette chronique à cause de mon amour pour les cochons et de la façon que tout le monde pense des cochons, sales, stupides et dégoûtants.
Merci pour nous avoir dit tout cela.
Si vous voulez en apprendre plus sur les cochons, trouvez-le sur le site Maître Cochon, le grand méchant goût. Par exemple, savez-vous qu'il y a plus de 300 différentes races et qu'ils ont un odorant très développé?
Doesn't mean to go green. I'll explain to you the concept as I quickly intervene. Going green simply means we gotta keep the earth clean. Can't waste away the world, we need sustainability. We can't be polluting all the forests and the streams, or smogging up the air by burning too much gasoline, or dumping all our waste into the oceans and the seas, and killing all the animals from our toxicity. Nah, look after the earth, ain't gotta just take it from me. All of the garbage we create has brought the earth down to her knees. Begging please set me free from all of this disease. Typhoons and hurricanes are like a cough and like a sneeze, and global warming like a fever, yeah, it's too many degrees. So you see, it's obscene, we gotta change dramatically. Truly going green will take all of humanity. Let's come together for the planet, y'all, we need some unity.
Let's join our hands and we paint the world green, go green. I'm green, you're green, we are green, yeah. Let's join.
that's the trip in our heads. We need a green psychology. Then our thoughts will lead to actions. That's the methodology. So stop all of your littering and sorry cycling, and get off of your couch and go outside and plant some trees and take a look down at your plate and then examine what you eat. Why don't you switch some meat out with some fruit or broccoli that is grown organically or better yet grown locally, and start conserving water before there's none left to drink. Replace all of your lights with ones that shine fluorescently, then dry your clothes out in the sun. Ain't gotta always use machines. Reduce your carbon footprint with some cleaner energy, and if you own a business, join the green economy. Yeah, let's join our hands and paint the world green, something that the human race has surely never seen. Making change in the world, it begins with me and you. So one thing we ask everybody to do is
Vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 FM. Vous venez d'entendre la chronique de Aurine et Grigor Green de Golby et Unwu. Maintenant, vous allez écouter la chronique de Snéal qui parle sur les fourmis. Bonjour Snéal.
Bonjour Titana. Je vais vous présenter aujourd'hui ma chronique sur les fourmis. Trois faits étonnants au sujet des fourmis. Apparues sur Terre il y a plus de 100 millions d'années, il existe plus de 11 700 espèces de fourmis dans le monde. On estime que les fourmis représentent entre 15 et 20% de la biomasse animale terrestre, c'est-à-dire de l'énergie renouvelable provenant des animaux. Savez-vous que ces incroyables petits insectes sont capables de tout faire, ou presque ?
Que sait faire une fourmi à part creuser des trous ?
Les fourmis jouent un rôle écologique très important. Elles retournent et aèrent plus de terre que les vers de terre. En faisant remonter les nutriments à la surface, elles contribuent à la dispersion des graines, se nourrissant de nombreux nuisibles et fournissant une source de nourriture à un grand nombre d'animaux et même de plantes.
Comment les fourmis communiquent-elles ?
Les fourmis communiquent par le toucher et à l'aide des phéromones, des substances chimiques sécrétées par les insectes et détectables par leurs congénères. Pour délivrer des messages, les fourmis laissent aussi des traces lorsqu'elles cherchent de la nourriture pour mener leurs semblables jusqu'à elles. Ce type de communication peut également être utilisé pour avertir d'un danger.
Et la reine, dans tout ça, que fait-elle ?
Les fourmis d'une colonie ont une tâche à accomplir en priorité, protéger la reine. Mais le travail de la reine est le plus difficile de tous, car elle produit continuellement des œufs pour entretenir la colonie. C'est la plus grosse fourmi de la colonie et elle peut vivre bien plus longtemps que sa progéniture. Les fourmis ouvrières ne vivent pas longtemps, mais les reines peuvent avoir une longue existence. Les reines des fourmis moissonneuses peuvent vivre jusqu'à 30 ans. Les reines dorment jusqu'à 9 heures par jour, par petite sieste de 6 minutes.
Merci pour toutes ces précieuses informations.
Je vous remercie de m'avoir écouté.
On vient d'entendre la chronique de Snéal qui parle des fourmis. Ici Global Radio, avec le collège Jeanne d'Arc. Vous allez écouter Guardian of Klingon de Gori Hanson. Et après, vous allez écouter ma chronique qui parle des pandas. Ouf. Oh.
She did.
on va écouter Titaina. Bonjour Titaina.
Bonjour Aurine.
Ta chronique parle de quoi ?
Ma chronique parle de la disparition des pandas. Plus précisément, les causes de la disparition des pandas.
Vas-y, nous t'écoutons.
Alors, comme je vous ai dit, je vais parler des causes de la disparition des pandas. Car les pandas sont des animaux très protégés par l'homme, mais nous les connaissons pas très sauf les gens qui les protègent.
D'où viennent les pandas ?
Le panda est le trésor national de la Chine. Depuis sa fondation en 1961, il en est le symbole. Et tibétain, son nom signifie « chat-ours ». En effet, bien qu'apportement à la famille des ursidés, ses pupilles sont fondues verticalement comme celles des félins.
D'où les pandas géants vivent ?
Les pandas géants vivent dans les 6 plus grands massifs montagneux du centre de la Chine.
En France, il y a combien de pandas ?
Si vous souhaitez voir ces animaux majestueux, sachez qu'en France, il n'existe qu'un endroit possible. Le zoo de Beauval. Le zoo est situé à Saint-Aignan, au cœur de la vallée de Loire. Je vous rappelle toujours que vous êtes sur Globule Radio 90.5 FM avec le collège Jeanne d'Arc.
Combien il reste de pandas dans le monde ?
Sur le site FeeWiz, il dit qu'à l'heure actuelle, il ne reste que 1864 pandas à l'état sauvage. Selon le Fonds mondial pour la nature, entre-temps, des reports indiquent qu'environ 60 pandas vivent en captivité.
Comment les pandas ont disparu ?
Comme si le réchauffement climatique n'était pas assez, l'humain entre également dans les décors pour envenimer la situation. En Chine et dans d'autres pays asiatiques, les gens avaient pour coutume d'organiser des temps, la chasse augmentée, suite à la découverte étrange d'une nouvelle race nommée Buoxing, incitant ainsi les chasseurs étranges à venir en Chine.
Merci Titaina pour ton chronique.
La nature s'invite sur votre antenne.
Vous venez d'écouter ma chronique. Vous êtes toujours sur Global Radio avec le collège Jeanne d'Arc avec des quatrièmes. Vous allez écouter l'interview de Snéal qui parle des champignons.
L'interview de Monsieur Jantet, spécialiste des champignons.
Voilà, c'est avec plaisir que je vais t'informer, te donner des conseils et te faire découvrir mon expérience sur les champignons.
Lesquels cueillez-vous en particulier ?
Alors, je cueille beaucoup de champignons parce que je pratique la cueillette depuis longtemps. Mais en général, les gens ramassent les chanterelles, les bolets. Mais il existe une variété telle les amanites rubescences, les sanguins, les coulemelles. Il existe beaucoup de champignons. Les gens connaissent la morille, mais on trouve pas beaucoup parce que c'est pas un champignon courant. Mais je dirais que les champignons se ramassent de fin d'hiver jusqu'au début de l'hiver d'après. Donc c'est surtout le printemps, l'automne que les champignons. Il faut de la pluie et du soleil.
Et où les trouvez-vous, ces champignons ?
Alors, les champignons, on les trouve surtout du côté, je dirais, où il y a le soleil, parce qu'il faut du soleil et de la pluie pour que ça pousse. On les trouve à la lisière des forêts, en bordure de prés, tels les coulemelles. Ce sont des gros champignons qui se voient de très loin. Et on en trouve aussi le long des zones humides, tels les morilles, tels les pésises, qui sont des champignons, disons, spongieux.
Parlez-moi de votre enfance et votre relation avec les champignons. Est-ce que c'est une tradition familiale de les cueillir ?
Alors, ce n'est pas une tradition, mais je dirais que c'est comme une chasse au trésor. Le champignon, on ne le trouve pas au coin de la rue. Il faut déjà aimer la nature, il faut aller dans les sous-bois. Et si vous avez la chance d'avoir un grand-père ou un père qui ramasse les champignons, au début, vous en trouvez, mais pas les bons. C'est souvent des rouges avec des points blancs. Et au fur et à mesure, vous découvrez qu'il y a des champignons qui sont très bons, qui peuvent être cuits de différentes façons. Et c'est grâce, disons, à la famille qu'on trouve les champignons ou à quelqu'un de proche, un ami, qui vous fait découvrir les champignons.
Comment les distinguer ? Comment les cueillir ?
Alors, pour être débutant en champignons, le mieux, c'est d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà pratiqué la cueillette. Et je dirais, on peut tous les ramasser. Mais il faut faire attention, il y en a qui sont toxiques, qui peuvent vous donner des coliques, et puis il y en a quelques-uns qui sont mortels. Il y a très peu de cas de mort, mais ça arrive. Donc il ne faut pas ramasser et les mettre en contact. Un champignon ne se garde pas dans un sac en plastique, il se consomme rapidement parce qu'il peut muter. Et un champignon qui peut être bon au départ peut être un petit peu dérangeant pour les intestins. Voilà. Alors le conseil, c'est toujours d'aller avec quelqu'un qui les connaît, qui vous fera aller directement dans les coins où il y en a. Autrement, vous risquez de faire une heure, deux heures sans jamais les voir.
Disons que je pars en forêt pour cueillir des champignons. Qu'est-ce que je prendrai avec moi, des outils en particulier ?
Alors, il n'y a pas besoin de marteau, pas besoin de tronçonneuse. Ce qu'il faut, c'est un bon opinel. Et je dirais, ben, le panier est un petit peu maintenant à la mode, parce que le champignon doit respirer. Mais si vous avez un sac en plastique, ça fera l'affaire. Par contre, quand vous arrivez, on les sort du sac en plastique, on les met sur une assiette, on les brosse, on les nettoie. Mais en outillage, il faut un couteau. Pourquoi ? Parce qu'on les laisse sur place, la racine, on cueille le champignon, mais on n'arrache pas le champignon. Et on le nettoie sur place.
Une fois que vous avez cueilli vous avez terminé votre cueillette aux champignons, quel plat préparez-vous avec ceci et comment les cuisinez-vous ?
Alors, une fois que j'ai mes champignons, il y a différentes façons. C'est toujours un légume, c'est pas le nom qui convient, mais qui accompagne une viande ou qui se mange en plat unique. Alors, les préparations, il y a différentes préparations. Ça peut se faire à la poêle, ça peut se faire sur les charbons de braise, et puis ça s'assaisonne. On y met du sel, on y met du persil, on y met de l'ail. On peut les faire un peu à l'étouffée, ça veut dire couvrir la poêle. Certains champignons s'y prêtent bien, tels les russules, par exemple. Mais d'autres champignons se font cuire avec du beurre, tels les coulemelles. Et chaque champignon, suivant les cuissons, ont un goût totalement différent. Si vous avez une coulemelle, on croirait manger un steak. Si vous avez une amanite rubescence, vous la faites griller, on croirait manger des crustacés. Mais un champignon, le mieux il reste nature, le mieux il se porte. Ça veut dire les faire cuire, mais pas trop les laisser bouillir dans leur propre eau. Il faut pas trop, plutôt les brosser que les laver. Voilà.
Quel serait votre champignon préféré et le plus rare que vous pourriez trouver ?
Ça reste malgré tout la morille. La morille conique, parce qu'elle ne foisonne pas. Il m'est arrivé d'en trouver 25 pieds. Alors, par contre, celle-là, on ne la fait pas cuire tout de suite. Elle a plus de goût en la faisant sécher. Par contre, il y a d'autres champignons qui sont assez rares et puis qui sont bons. Mais souvent, les gens connaissent le cep, connaissent la girole, connaissent la trompette de la mort. Oh, le bolet, le cep, la tête de nègre, on appelle. C'est un bolet qui est très ferme, qu'on peut donc ramasser, mettre au congèle, même cru, et on le ressort après. Le bolet a beaucoup de goût. J'aime moins la chanterelle parce que c'est un champignon qui est très ramassé, on en trouve beaucoup. Je vais l'aimer, mais si on la fait sécher, elle prend plus de goût. Par contre, je trouve que c'est caoutchouc. On met souvent des références sur des champignons qui ne sont pas les meilleurs. J'aime bien la russule charbonnière. C'est un champignon qui est petit, que les gens ne ramassent pas. J'aime bien la golmotte. La golmotte est un très bon champignon. Voilà.
Merci d'avoir écouté l'interview de M. Jantet, spécialiste des champignons. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence of cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Yeah, you're a natural, living your life.
can taste it. The end is a bonus, I swear. I'm gonna make it.
Vous êtes toujours sur Globule Radio avec le Collège Jeanne d'Arc. Vous venez d'entendre l'interview de Snell. Vous allez écouter la première partie de l'interview de Aurine, suivie de Sauver la Terre de David Inoun, avec la chorale du Collège Gustave Flaupeur.
Maintenant, vous allez écouter l'interview de Xavier Dunon sur la biodiversité aux Aiguilles Rouges. Avec la première question, quel a été le rôle de Maurice Herzog dans la création du réserve ?
Plusieurs réserves naturelles ont été créées, ou en tout cas plusieurs étapes. En 1971, c'est une réserve naturelle intercommunale, donc qui engage directement les maires, puisque ce sont les maires des communes de Chamonix et de Valorcine, dont Maurice Herzog pour Chamonix et Maurice Cana pour Valorcine, qui sont mis ensemble et qui ont choisi de créer une réserve naturelle. Et puis en 1974, c'est l'État, et c'est donc une réserve naturelle nationale, qui a été créée sur le site du massif des Aiguilles Rouges.
Pourquoi la réserve a été créée ? Dans quel but, à part le but pour protéger les animaux, est-ce que ça a des autres buts comme scientifiques ou autres ?
C'est un peu plus large, effectivement. Aujourd'hui, on se dit réserver, préserver, c'est pour préserver des animaux. En fait, c'est pas uniquement pour ça, et c'est même pas du tout pour ça au départ qu'on a créé la réserve. On a créé la réserve pour avoir un lieu de pédagogie et un lieu pour pouvoir montrer la nature et toute sa richesse. En fait, au départ, on va essayer d'avoir ce lieu où, petit à petit, on va peut-être mettre un peu moins les hommes à l'intérieur, et puis montrer, à travers un langage aussi bien scientifique, mais aussi bien poétique, par exemple, ce qui a toujours été le cas de la découverte de la montagne. Mais là, ce qui va être nouveau, c'est qu'effectivement, on va s'appuyer sur des scientifiques et on va venir parler à tous les publics, des enfants, des familles, des professionnels. Tout le monde va pouvoir venir observer la nature et observer une certaine nature ici sur la vallée de Chamonix, qui est toujours un lieu très fréquenté. Et donc, ça permet d'avoir une certaine vitrine plutôt que de dire on va mettre un enclos et préserver l'endroit pour pas que les animaux aient des problèmes ou pour pas qu'on les dérange de trop.
Vous parlez des animaux. Vous avez plus de 1400 espèces, plantes et animaux dans la réserve. Quels sont les principaux ?
Alors oui, c'est très varié. Il y a bien sûr les plantes, les animaux. Et puis on regarde que ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'il y a aussi les insectes. Il y a aussi les oiseaux, il y a tout un tas de choses. Et justement, ce milieu, il vit tout seul. Et il s'alimente. Donc après, il y a des animaux qui sont emblématiques. Par exemple, le bouquetin qui a été réintroduit, qui avait complètement disparu de ces zones-là, qui a été réintroduit dans cette réserve naturelle. Et puis, des animaux emblématiques, c'est l'emblème, par exemple, de cette association, c'est la marmotte, qui est un animal assez emblématique, même si c'est pas un animal protégé. Et puis, d'autres oiseaux, on sait qu'il y a des animaux, des oiseaux protégés comme le gypaète barbu, qui ont été réintroduits, alors pas directement dans la réserve, mais comme ils ont des zones très très grandes, ils viennent aussi dans la réserve. D'autres animaux qui sont protégés, comme l'aigle royal, par exemple. Donc des emblématiques, il y en a beaucoup, effectivement. Mais l'intérêt, c'est d'avoir tout le monde. Tous ces animaux, parce qu'il y en a plein, des fois, dont on parle pas forcément. Et puis il y en a qui ont aussi toute une évolution, qui ont des caractères particuliers, que ce soit les lièvres blancs ou les perdrix des neiges, c'est la gopède. Donc il y a vraiment une diversité intéressante, puisque en plus la réserve naturelle des Aiguilles Rouges, elle va quasiment de Argentière, donc assez bas dans la vallée, jusqu'au sommet du Belvédère. Donc ça fait une étendue remarquable. Et puis après, voilà, sur de nombreux hectares.
Donc c'était pas créé pour des animaux principaux, c'était créé pour tous les animaux. En danger et pas en danger, pour tout.
Oui, pour les animaux, pour les plantes, pour les insectes, pour les lieux humides, pour toute cette diversité en fait. C'est pas juste un zoo, c'est pas juste un endroit fermé avec certaines zones particulières, c'est tout un ensemble.
Pour les plantes, est-ce que vous les protégez juste pour les protéger ou vous les protégez pour que les animaux puissent les manger? Comme je suis allée, on n'a pas le droit de cueillir les myrtilles. C'est pour que les animaux puissent les manger?
Alors, si on a le droit de cueillir les myrtilles, on n'a juste pas le droit de cueillir des fleurs, pas le droit de ramasser des pierres. Et donc, il y a certaines interdictions comme ça. Et effectivement, on pourrait dire on n'a pas le droit non plus, théoriquement, d'enlever les myrtilles. En fait, l'idée, c'est de retrouver simplement un cycle qu'on peut dire naturel et que ce cycle, eh ben, il fasse participer les plantes, les animaux... et puis qui continue un petit peu à générer quelque chose qui est équilibré. Hein, c'est des cycles de la nature, donc il y a des animaux qui mangent les plantes, il y a d'autres animaux qui mangent les animaux, et puis après, ben, il y a des dépouilles qui sont détruites par des insectes, et ainsi de suite. Alors, aujourd'hui, la gestion de la réserve naturelle n'est pas intervenante sur les espèces de plantes, par exemple, de dire on va essayer de préserver celle-ci parce que elle permet à beaucoup d'animaux de manger. Ce qu'on va chercher à faire, c'est plutôt de préserver des milieux. Je pense par exemple aux milieux humides, hein, qui sont des milieux où il y a beaucoup de choses et beaucoup de diversité dessus. Donc on peut intervenir pour préserver des milieux humides. Et puis peut-être à l'avenir, on sera obligé d'intervenir sur certains milieux qui évoluent avec l'évolution de la forêt, avec l'évolution ou la perte des alpages, ou alors avec la trop grande fréquentation, quand on voit l'évolution de certains sentiers.
Comment vous protégez les plantes si une autre plante vient et envahit l'environnement, comme la renouée? Et comment vous le saviez? Car la réserve est énorme. Et comment vous en débarrassez?
On va intervenir, on laisse les choses se faire, même si après, pour certains milieux, il peut être important d'intervenir. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Et donc, les espèces invasives, elles sont observées. On les observe. Et puis, ma foi, on ne peut pas forcément toujours les travailler ou toujours les supprimer. On sait qu'elles sont invasives parce qu'elles ont un caractère particulier qui fait qu'elles prennent le dessus sur d'autres animaux, d'autres plantes, pardon. Et donc, à partir de là, il faut les observer, peut-être les gérer, puis voir un petit peu leur cycle, comment ça peut correspondre. Mais il n'y a pas un travail particulier qui est fait là-dessus, c'est plutôt de l'observation.
Mais si ces animaux, comme la renouée, viennent du Japon ou d'un autre pays, ils ne sont pas principalement dans ce pays, et donc, est-ce qu'ils vont changer le cycle de vie pour ces plantes ou est-ce que vous les laissez?
Oui, ça va changer des choses, bien sûr. Après, tant que derrière, il y a de la vie qui continue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une invasion d'un insecte, par exemple, et puis derrière, ben, il y a des pics ou d'autres oiseaux qui vont venir manger cet insecte. Et donc, petit à petit, ça va s'équilibrer. Par exemple, sur la renouée du Japon, puisqu'il y a plein d'autres renouées, hein, elles sont pas toutes invasives. La renouée du Japon dit, ben oui, elle vient du Japon. C'est vrai qu'elle a été amenée. Mais combien de plantes existent aujourd'hui dans notre monde et qui ont été un jour amenées par l'homme ou par quelques graines qui ont été disséminées par les oiseaux? On n'a pas beaucoup de recul par rapport à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des caractères de plantes particulières qu'on dit invasifs aujourd'hui. Au même titre, sur des animaux, on a trouvé que certains animaux, l'homme a choisi que certains animaux étaient des animaux parasites. Mais ils sont très utiles des fois. Alors, c'est des équilibres qui sont particuliers et il faut regarder avec un petit peu plus de recherche et puis surtout beaucoup d'observations pour pas engendrer de déséquilibre à nouveau.
Vous venez d'entendre la première partie de l'interview de Aurine. Vous allez écouter la deuxième partie de l'interview de Aurine. Vous êtes toujours sur Global Radio avec le Collège Jeanne d'Arc.
Quel est votre rôle au centre de la réserve?
Alors, L'association que je représente aujourd'hui, elle est plus gestionnaire de la réserve. C'est plus elle qui s'occupe de toute cette gestion. Il y a une autre association qui est le Conservatoire des espaces naturels et qui s'appelle Asters, qui est donc, elle, gestionnaire aujourd'hui de la réserve naturelle. Après, au niveau de l'animation, au niveau de tout l'enseignement, au niveau de tout ce qui peut se trouver autour des aiguilles rouges et justement de la présentation au public, on est plusieurs partenaires. Il y a donc la communauté de communes de la vallée de Chamonix et l'association que je représente, qui est l'association Arnard, l'association des réserves naturelles. Donc là-dessus, on est... Et puis Aster fait aussi une part de médiation par rapport à la nature. Donc nous, l'idée, c'est derrière, c'est de montrer le plus possible au plus grand nombre de publics comme est la nature, comme elle est belle d'une part, comment elle fonctionne, d'un point de vue un peu effectivement scientifique, et ce qui permet de montrer ses équilibres et de chercher à comprendre qu'il faut la préserver, parce que cette préservation, elle ne se fait pas juste dans une réserve, sinon ce serait ridicule.
Y a-t-il des recherches scientifiques en cours dans la réserve? Et si oui, quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils essaient de faire?
En ce moment, il y a des recherches sur des rochers qui sont en train de bouger ou des falaises entières. Et donc, on essaie de comprendre comment les systèmes se sont développés et puis peut-être les risques qu'il peut y avoir aujourd'hui. S'il y a une barre rocheuse qui risque de tomber sur des villages d'aujourd'hui, ça peut poser quelques problèmes. Et puis, il y a d'autres recherches donc au niveau des sols qui permettent de comprendre... comment les montagnes se sont soulevées, comment ces roches se sont mélangées, comment des roches qui devraient être en profondeur dans la terre, elles se retrouvent là-haut, au sommet des aiguilles rouges. Donc, tout un tas de recherches là-dessus. Et puis, après, au niveau des plantes, il y a des mécanismes, comment certaines plantes arrivent à vivre à certaines altitudes. Et puis aujourd'hui, avec l'évolution du climat, on voit aussi des changements par rapport à la neige, par rapport aux enneigements qu'il peut y avoir à des altitudes moyennes, donc une baisse de cet enneigement, et puis une évolution par rapport aux animaux, qui peuvent avoir des problèmes pour vivre à ces altitudes, et donc comment la nature évolue, et puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc je pense à des recherches qui sont faites aussi bien par le CREA, et puis par d'autres chercheurs qui observent dans ces massifs de montagne.
Et le tour du Mont Blanc et le trail des aiguilles rouges autorisés dans la réserve, pourquoi et quel est leur impact?
Alors il est certain que faire venir un nombre important de coureurs, c'est très discutable, on en est en pleine discussion très souvent. Alors pour ce genre d'activité organisée, il faut déposer un dossier, le dossier est observé, et puis il y a une décision qui est faite en préfecture, puisque on est sur une réserve naturelle nationale, et à partir d'une commission qui va éplucher le dossier, regarder les difficultés ou les endroits, ou peut-être rectifier certains itinéraires, et puis donner un avis sur la présence ou pas d'une course, puisqu'il y a le trail des aiguilles rouges, mais il y a aussi l'UTMB qui passe dans la réserve naturelle des aiguilles rouges. Donc ça fait vraiment beaucoup de monde. On sait que les animaux sont dérangés, mais... Il y a ce respect peut-être du territoire. Et une problématique qui arrive aujourd'hui, c'est qu'un trailer, il court le matin, il court la journée, mais il court aussi la nuit. Et en principe, la nuit, quand on randonne, c'est plutôt la période où on est soit dans un refuge, soit sinon on rentre chez soi, ou alors on est en train de bivouaquer. Alors que là, les trailers pratiquent les sentiers. Et effectivement, c'est un dérangement de plus aujourd'hui qui arrive dans les réserves naturelles. Alors il y a des études qui sont faites, mais après elles ne sont pas forcément suivies non plus, parce que il y a plusieurs partenaires, et donc il y a des partenaires qui sont proéminents par rapport aux uns aux autres.
Et est-ce que la réserve a des projets pour le futur?
Ben oui, parce que aujourd'hui découvrir la nature, ça paraît quelque chose de très bien. On peut la découvrir virtuellement, on peut y aller, comme tu l'as fait et comme tu le fais, j'imagine, encore. Et ça, c'est le plus important. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'avenir à découvrir la nature, et même la nature tout simplement, parce que même de savoir, par exemple, qu'il y a plusieurs variétés de mouches. Alors, on se dit, c'est pas la mouche qui nous intéresse le plus. Mais s'il y a plusieurs variétés de mouches, c'est qu'il y a plusieurs comportements, et c'est que cet animal, cette petite bête, elle a évolué. Et donc, il y a de l'avenir à découvrir tout ça. Si on parle de biodiversité, il y en a pour toutes les tailles, tous les goûts, et tout le monde doit ou se doit de vivre ensemble avec un certain équilibre. Ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a le retour des grands prédateurs. On a le retour du loup, par exemple, dans les réserves naturelles. Ça pose des problèmes dans un certain sens, mais en tout cas, ça permet un autre équilibre d'un autre côté. Sans rentrer dans les difficultés qu'ont les uns ou les difficultés qu'ont les autres, c'est un élément de plus, en tout cas, dans la biodiversité d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup d'avenir, effectivement, dans les réserves naturelles. Peut-être pas pour les garder dans un bocal, justement, mais en tout cas, pour participer à la médiation et à parler de la nature.
Merci beaucoup pour cette interview et au revoir.
Merci, merci. Et puis, bonne suite dans vos questions et dans votre cheminement. Et au plaisir de vous recevoir dans la réserve naturelle ou quelle que soit la montagne.
Merci. Je remercie encore à Xavier d'avoir répondu à mes questions.
La nature s'invite sur votre antenne.
Vous êtes toujours vous venez d'entendre la dernière partie de l'interview de Aurine. Vous êtes toujours sur Globule Radio avec le collège Jeanne d'Arc. Maintenant, vous allez écouter mon interview sur les myrtilles.
Les myrtilles, ça fait partie de la botanique spécifique de l'alpage subalpin et alpin. Donc c'est vraiment une plante qui fait partie de cette zone de combat qu'on appelle un milieu spécifique qu'on appelle la lande. Et c'est une plante vraiment spécifique de montagne. Et donc oui, forcément, elle fait partie de la biodiversité. À partir du moment où elle fait partie de la diversité biologique, elle fait partie de la biodiversité. Donc oui.
Ont-elles toujours existé ou est-ce une espèce importée par l'homme?
Alors elle a toujours existé. Après, il faut savoir où est-ce qu'elle a existé. Et c'est sûr que c'est une plante qui nous vient du nord de l'Europe et puis qui est venue s'abriter dans nos milieux parce que justement, elle retrouve les conditions particulières à sa vie en montagne. Donc ce n'est pas une plante importée par l'homme. Elle est arrivée naturellement avec les courants d'air qui ont apporté des graines et puis ces graines sont arrivées progressivement chez nous. Et ça date de la dernière grande période de glaciation, l'époque du Würm, il y a à peu près moins 20 000 ans d'années.
Est-ce qu'on a le droit de les ramasser?
Alors les myrtilles, on a complètement le droit de les ramasser. La cueillette est interdite en réserve naturelle, mais quand on parle de cueillette, on entend cueillir un bouquet de fleurs. Et on a le droit de cueillir les champignons et les myrtilles en réserve naturelle, dans les écuries rouges, à Chamonix. On a le droit même de les cueillir au peigne. Par contre, on fait attention à ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on n'arrache pas les plants de myrtilles complètement avec le peigne, on fait attention. Et puis si on peut éviter de trop sortir des sentiers, on a le droit de sortir des sentiers, mais c'est un comportement qu'on plébiscite pas. On essaye de dire aux gens, ramassez les myrtilles, faites attention à vos marchés, et si vous pouvez rester sur le sentier, c'est encore mieux.
Pourquoi les gens les ramassent? Est-ce que c'est bien de les ramasser?
Bah, ça, c'est une bonne question. Pourquoi les ramassent? Parce que c'est bon, les myrtilles, je pense. Après, la plupart des gens, ils les ramassent pour faire des tartes ou des confitures. La seule réglementation qu'il y a avec les myrtilles, c'est qu'on n'a pas le droit d'en faire commerce. Voilà. C'est pour sa consommation personnelle. Comme ça, on peut manger de la bonne confiture de myrtilles et peut-être que c'est mieux de manger des confitures de myrtilles qu'on a ramassées, nous, plutôt que de manger des confitures de myrtilles qui viennent d'ailleurs ou de plantations. Pour la plante en elle-même, c'est sûr qu'on lui enlève l'élément qui lui sert pour se reproduire. Donc, c'est toujours bien d'avoir une cueillette qui soit raisonnée avec toujours laisser quelques... Sur le plan du myrtillier, laisser toujours quelques myrtilles pour qu'ils puissent se reproduire et que l'année prochaine, on puisse continuer à ramasser des myrtilles.
À quelle période peut-on les cueillir?
On peut les cueillir quand elles sont mûres. Après, en général, à partir du 15 juillet, début août, on commence à pouvoir commencer à ramasser les myrtilles parce qu'elles sont mûres, elles sont à maturité. Après, je sais que mes grands-parents, moi, ils y allaient toujours au mois de septembre. Ils allaient ramasser les myrtilles au mois de septembre parce que les feuilles commencent à tomber et du coup, c'était moins de travail pour trier les myrtilles derrière.
Où et quand peut-on les trouver ?
À partir du moment où on est en dehors de la forêt, parce qu'il y a des myrtillers dans la forêt, mais la plupart du temps, ils ne donnent pas de fruits parce qu'il n'y a pas assez de lumière qui arrive aux myrtillers, et donc ça ne donne pas des fruits. Mais donc il faut de la lumière, il faut être un peu en altitude. Il y a des très jolis coins de myrtilles sur le haut de la vallée, en dehors de la forêt, sur l'alpage de Charamillon par exemple. Et puis quand, et bah, à partir du moment où elles sont assez sucrées à notre goût, des années où ça va être un peu sec, où il va faire chaud, ça peut être déjà au 15 juillet, on commence déjà à ramasser les myrtilles, ou sinon durant le mois d'août, c'est une bonne période.
Et comment on peut les reconnaître ?
Alors, la myrtille, faut pas la confondre avec l'airelle, c'est très important. Ce sont deux espèces qui sont bien différentes. La myrtille, alors le plant de myrtille a une tige anguleuse, il y a des angles sur la tige, et la tige, elle est verte, elle est non ligneuse, elle ne comporte pas de lignine. Alors que sa plus proche cousine, l'airelle, elle a une tige qui est ligneuse, ça a la couleur du bois, et c'est une tige qui n'est non anguleuse, elle est ronde, la tige. Ensuite, la baie, quand j'écrase la baie de myrtille à l'intérieur, elle est rouge, alors que l'airelle, l'intérieur, elle est blanche.
Est-ce qu'il y a des animaux qui aiment bien manger les myrtilles ?
Il y a beaucoup d'animaux qui aiment bien manger les myrtilles, je pense notamment aux renards ou aux oiseaux. Il y a des fois, on trouve des taches complètement violettes sur les cailloux, et en fait, c'est les oiseaux qui vont manger les myrtilles, et ensuite, ils vont faire leurs excréments, et ça fait des taches complètement violettes sur les cailloux, et c'est assez rigolo. Par rapport aux renards, on entend souvent qu'il y a des maladies qui sont portées par l'urine du renard, et attention, il ne faut pas manger les myrtilles. Soit on les lave, soit on les cuit, mais ce n'est pas avec l'urine du renard, c'est avec la crotte. Et cette maladie, c'est échinococcose alvéolaire. Et elle est transmissible à l'homme. Alors, il n'y a que quelques cas, il me semble qu'il y a une vingtaine de cas en France d'échinococcose alvéolaire, alors qu'il y a 10 morts par jour en voiture dans un accident. Donc, si vous ne voulez pas manger de myrtilles, cueillez-les, puis amenez-les-moi, je vais les manger, mais on n'est pas obligé de faire très très attention à ça. Le risque est quand même très très faible, bien plus faible qu'un accident de voiture.
Merci à Alex Bruno pour cette interview. Merci de nous avoir écoutés et merci à la société Inde Hindenburg qui nous a permis de faire le montage. Et merci à Global Radio de nous avoir permis de faire cette émission. Et je fais des petites dédicaces à la mère de Snéal, à mon père et mes sœurs et à notre prof, Madame Mère.